Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Bonjour, vous êtes bien sur Silab. Aujourd'hui, nous faisons une incursion dans notre grille pour vous proposer une émission spéciale en partenariat avec le réseau Pépites Bretagne à l'occasion de la Semaine Créative. La Semaine Créative, c'est un événement destiné à promouvoir l'entrepreneuriat étudiant. Au programme de cette émission, un défrichage pour faire le point sur toutes les possibilités offertes par ce statut d'étudiant auto-entrepreneur, à la fois au sein des universités, mais aussi dans la vie professionnelle grâce au réseau Pépites, mais aussi une mise en lumière de deux projets d'étudiants et étudiantes de Bretagne qui nous raconteront leurs expériences.
Univox.
Avant tout, je vais faire un petit tour de table. Aujourd'hui, nous recevons en studio Mathilde Hérault et Xavier Caudal. Tous les deux, vous êtes des étudiants et étudiantes auto-entrepreneurs. Bonsoir.
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 Vous nous en direz plus sur votre projet en deuxième partie d'émission, mais on peut déjà le dire en deux mots. Vous, Mathilde, vous évoluez dans le milieu de la com et de l'événementiel, c'est bien ça?
Tout à fait. J'ai monté mon agence de com et d'événementiel en avril 2024.
Bravo.
Et j'ai intégré Pépites en janvier 2024 également.
Quant à vous, Xavier, vous avez ouvert une salle de crossfit, c'est ça?
Exactement, ouais. J'ai ouvert cette box de crossfit il y a maintenant un mois et demi.
On en parlera même en reportage tout
avec
à l'heure.
Avec grand plaisir.
Autour de la table également Aïcha Altiti, chargée d'orientation et d'insertion professionnelle au service universitaire d'information, d'orientation et d'insertion professionnelle de l'Université Rennes 2. Bonsoir.
Bonsoir.
Et je termine par vous, Jean-Charles Hervieux. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable opérationnel régional du réseau Pépites Bretagne, un pôle qui accompagne les étudiants et étudiantes et jeunes diplômés dans leurs projets d'entrepreneuriat, c'est ça?
Tout à fait.
Mais avant d'en dire plus sur Pépites, j'aimerais qu'on revienne juste un peu à la base avec CES.
C'est quoi le statut étudiant auto-entrepreneur, Jean-Charles Hervieux?
Alors en fait, le statut d'étudiant entrepreneur, c'est très simple. C'est un statut qui permet aux étudiants et aux jeunes diplômés, en parallèle de leurs études, de bénéficier d'un accompagnement à la création d'entreprise et plus largement à la création d'activités grâce au réseau Pépites.
Qui peut demander ce statut?
Alors, ce statut est ouvert à l'ensemble des étudiants. Donc, à partir du moment où vous avez votre bac, eh bien, vous pouvez prétendre au statut d'étudiant entrepreneur.
Et comment faire?
C'est très simple. Il faut juste pouvoir aller sur le site Pépites France et postuler au statut. Et donc, on constitue un comité d'audition qui permet de recruter 4 à 5 fois par an, la promotion des étudiants entrepreneurs.
Pour combien de temps ce statut est-il accordé et peut-on le renouveler?
Alors, ce statut est accordé pour une première période correspondant à une année universitaire. Bien évidemment, en fonction du temps passé, mais également de la maturité du projet, on peut renouveler à plusieurs reprises le statut d'étudiant entrepreneur.
Eh bien, merci pour toutes ces précisions. Maintenant qu'on a les bases, on va pouvoir aller plus dans les détails. Mais juste avant, on fait une petite pause musicale avec un titre issu du tout dernier album de The Cure, sorti au début du mois. Ça s'appelle I Can Never Say Goodbye.
Thank you. never say goodbye.
Vous venez d'entendre I Can Never Say Goodbye de The Cure. Vous écoutez toujours l'émission spéciale Semaine Créative en partenariat avec le réseau Pépites Bretagne. Et oui, aujourd'hui on parle du statut étudiant auto-entrepreneur sur Scilab. Je vais me tourner particulièrement vers vous, Jean-Charles Herviot et Aïcha Altiti. Je le rappelle, Aïcha, vous êtes chargée d'orientation et d'insertion professionnelle au service universitaire d'information, d'orientation et d'insertion professionnelle de l'Université Rennes 2. Quant à vous, Jean-Charles, vous êtes responsable opérationnel régional du réseau Pépites Bretagne. Est-ce que vous pouvez nous présenter plus en détail ce réseau ?
Alors le réseau Pépites, c'est un réseau qui est né il y a à peu près 10 ans sous l'initiative du ministère de l'Enseignement supérieur. Comme quoi, il y a certains dispositifs qui perdurent, et ça c'est une bonne chose, notamment lorsqu'on parle d'entrepreneuriat. C'est un dispositif aujourd'hui où on a plus de 33 pépites sur l'ensemble du territoire, et c'est plus de 235 collaborateurs qui accompagnent des étudiants qui ont des projets de création d'activités. Si je redescends sur le Pépites Bretagne, aujourd'hui nous sommes 14 collaborateurs et nous avons accompagné plus de 1000 étudiants entrepreneurs depuis 10 ans, ce qui s'est concrétisé par un peu plus de 300 créations d'activités. Je parle bien de création d'activités parce que lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, on a peut-être tendance à faire un travers court de dire que la création d'activité, c'est uniquement la création d'entreprise. Et en fait, c'est bien au-delà de tout ça, puisque lorsqu'on parle de création d'activité, on parle de création de labels, on parle de création d'associations, de création de mouvements également. Et donc, plus largement, je préfère parler d'engagement plutôt que de l'accompagnement à l'entrepreneuriat.
Vous le disiez, cette année marque les 10 ans du statut. Qu'est-ce qu'on peut dire de son évolution depuis 2014 ? Qu'est-ce que vous retenez de cette décennie ?
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que d'une part, les chiffres sont en perpétuelle croissance. Et je crois que les étudiants qu'on a en face de nous et les jeunes entrepreneurs qu'on a en face de nous ont envie d'entreprendre, mais pas pour la même raison que peut-être leurs parents il y a une vingtaine d'années. En fait, le profil type des étudiants, s'il y en a un, c'est l'étudiante ou l'étudiant qui souhaite entreprendre sa vie professionnelle et donner du sens. Je crois que ça, c'est vraiment crucial et je dirais que c'est très central dans les différents projets qu'on peut accompagner.
Vous parliez un petit peu du profil. Est-ce que vous avez une connaissance sur la part un peu femme-homme ? Comment vous expliquez les différences, s'il y en a ?
Malheureusement, il y en a encore. Le statut d'étudiant entrepreneur, aujourd'hui, c'est un peu moins de 40% de femmes et donc 60% d'hommes. Alors, comment l'expliquer sans rentrer trop dans les détails philosophiques ? Je crois que c'est avant tout certainement une notion de confiance en soi à vouloir entreprendre. On se rend bien compte que dès l'âge de 6 à 7 ans, on voit bien qu'il y a une différence qui se creuse entre garçons et filles et que le garçon a tendance à moins se poser de questions, à se lancer. Alors que, et ça c'est, c'est aussi à bien intégrer, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les créations d'entreprises qui sont portées par les femmes ont un taux de réussite beaucoup plus importante dans tous les cas que celles qui sont créées par des hommes, parce qu'il y a une aversion au risque qui permet aussi finalement de gérer l'entreprise en bonne conscience et peut-être avec moins de prise de risque.
Et à ce sujet, est-ce que vous, du coup, il y a des choses qui sont mises en place pour inciter les étudiantes à entreprendre ?
Oui, alors sans tomber dans le discours les filles, ayez confiance en vous, je crois qu'on n'est plus à ça. Nous, ce qu'on essaie de faire, notamment avec Eve qui s'occupe de la communication au sein du Pépite Bretagne, c'est d'orienter le message positivement vers le public des femmes, donc en mettant systématiquement en avant sur notre site notamment des témoignages d'entrepreneurs au féminin.
Donc on n'est plus dans l'injonction, mais dans la preuve, ça existe, vous pouvez participer.
C'est tout à fait ça.
Et vous parlez du coup un petit peu de la différence sur la pérennité des entreprises. Justement, combien peuvent être considérées pérennes dans celles que vous avez accompagnées ?
Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que sur à peu près les 1000 étudiants entrepreneurs qu'on a accompagnés sur les 10 dernières années, on a à peu près 30% d'activités qui ont été créées à l'issue de ce parcours d'étudiants entrepreneurs. Le taux de pérennité, c'est un peu plus complexe parce que les données se raréfient au fur et à mesure, parce que bien évidemment, plus on s'éloigne de la première année, plus on a ça s'effiloche. Ce qu'on peut dire, mais ça c'est plutôt des constats au national, ce qu'on peut dire, c'est que le taux de pérennité d'une entreprise qui est accompagnée dès le démarrage est supérieur en termes d'entreprises qui ne seraient pas accompagnées.
Est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous parler un petit peu de cet accompagnement, comment il s'incarne, quels sont les outils que vous mettez en place ? Je ne trouve pas la question, mais bon.
Oui, comment vous accompagnez à la fois à Pépite et ensuite on parlera à l'université, ces étudiants et étudiantes, quelles aides vous leur apportez, quels outils vous leur fournissez ?
Alors, l'accompagnement des étudiants et étudiantes qui ont le statut d'étudiant entrepreneur se fait à deux niveaux. Il y a un premier niveau qui est l'accompagnement collectif. Donc, on organise avec l'équipe Pépite des ateliers, ce qu'on appelle des workshops, qui permettent d'adresser toute la thématique en lien avec l'engagement et l'entrepreneuriat. Ça va de pourquoi je veux entreprendre, c'est quoi les valeurs, qu'est-ce qui me pousse à entreprendre, ce qu'on appelle le why, et jusqu'à comment finalement je rends pérenne mon projet, comment je réfléchis à ce que finalement je puisse équilibrer les dépenses avec des recettes de mon activité. Voilà. Donc on brosse vraiment très largement, collectivement, l'ensemble de ces thématiques. Et puis en plus, bien évidemment, chaque projet est unique et donc on met en relation chaque étudiant entrepreneur avec un mentor. Donc on a un réseau de mentors qui sont des bénévoles, qui sont des chefs d'entreprise, mais aussi pour certains des personnes qui peuvent travailler dans les services d'orientation, pour certains qui travaillent dans les entreprises à des fonctions marketing, etc. etc. Et donc ces mentors vont être là pour accompagner le questionnement de l'étudiant entrepreneur et de l'étudiante entrepreneur. En d'autres termes, ils ne sont pas là pour apporter une réponse. Ils sont là pour vraiment faciliter la prise de décision et le questionnement.
Merci pour cette réponse. Et si vous le voulez bien, Aïcha et Eltiti, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre rôle auprès de ces jeunes dans ce que l'université de Rennes 2 peut leur apporter justement ?
Alors du coup, moi j'ai pour rôle d'encourager, de sensibiliser les étudiants et les étudiantes de Rennes 2 sur l'esprit d'entreprendre. Donc en fait, on passe aussi beaucoup par les équipes pédagogiques, donc les enseignants qui sont les meilleurs prescripteurs. Voilà, donc on intervient dans les amphis pour présenter un petit peu ce que c'est Pépite, ce que peut apporter le statut étudiant-entrepreneur. On organise aussi avec les chargés de mission Pépite des ateliers, toujours pour sensibiliser, encourager les jeunes qui ont envie d'entreprendre ou qui souhaitent, qui ont une idée mais qui ne savent pas comment faire. Et puis après, il y a un tas d'événements aussi qui sont proposés par Pépite, notamment des challenges, donc qui permet à les étudiants qui ont une idée ou qui souhaitent se lancer, de travailler donc de façon, on va dire, pluridisciplinaire avec d'autres étudiants. Et donc, ils participent à un challenge pour créer une entreprise, développer un projet. Donc, ils ont un accompagnement avec des professionnels, des mentors. Ils peuvent bénéficier d'ateliers ateliers également sur des ateliers marketing, sur voilà, plein de thématiques. Donc et voilà, et ensuite ils peuvent pitcher et il y a des concours derrière, donc ils peuvent également gagner des prix. Ce qui leur permet après, s'ils le souhaitent, de pouvoir continuer et pérenniser leur projet.
Là, par exemple, sur Rennes 2, vous accompagnez combien de personnes en ce moment ? Question piège. Une dizaine ?
C'est une bonne question.
Du monde.
Alors, on sent qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui sont intéressés par cette thématique. Alors, moi, je n'ai pas le chiffre exact. Bon, pour être honnête, ça fait pas longtemps que je suis sur ce projet-là, donc
je crois que Jean-Charles.
Mais peut-être que Jean-Charles saura répondre à cette question.
Parce que moi, je suis le roi des statistiques. Mais en fait, sur Rennes 2, aujourd'hui, il y a un peu plus de 20 étudiants entrepreneurs.
Okay. Voilà, donc on a encore une belle marge de progression.
Mais vous mentionnez en amont justement des avantages de ce statut au niveau des études. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu justement des avantages, voire même plutôt des aménagements qui sont permis pour voilà, coordonner cette vie étudiante avec cette vie entrepreneuriale?
Alors effectivement, lorsqu'ils ont le statut d'étudiant entrepreneur, ils ont effectivement pas mal d'avantages. Le premier, c'est de pouvoir avoir des aménagements par rapport à leur formation pour pouvoir continuer à travailler sur leur projet. Ils peuvent également substituer leur stage par leur projet. Alors ça doit être validé par l'équipe pédagogique, bien entendu. Si les enseignants acceptent dans ces cas-là, voilà, ils peuvent se consacrer à 100% sur leur projet. Et puis tous les avantages que propose Pépite, notamment de pouvoir aussi avoir accès à un réseau d'entrepreneurs et puis tous les outils qui sont proposés également pour les étudiants.
Et toujours dans cette idée un petit peu de l'articulation entre vie universitaire et vie entrepreneuriale, est-ce qu'il y a également des jeunes chercheurs, chercheuses et doctorants, doctorantes qui peuvent prétendre à ce statut ? Est-ce que c'est important pour vous ?
Ouais, c'est une très bonne question. En fait, c'est un sujet qu'on a attaqué il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans. On a eu l'opportunité de recruter un chargé de mission sensibilisation entrepreneuriat des doctorants. Pourquoi créer cette différence entre doctorant et étudiant ? Parce qu'un doctorant, c'est avant tout un étudiant, mais la particularité du doctorant, c'est qu'il développe des compétences qui sont notamment liées à la rédaction et à la prise de hauteur, qu'un étudiant a peut-être moins l'usage dans tous les cas, puisqu'on est sur des formats plus courts, et la thèse amène dans tous les cas à devoir réfléchir sur des sujets qui ne sont pas encore défrichés. Et donc, ces spécificités-là amènent forcément à avoir un accompagnement spécifique. Donc, pour répondre à la question, oui, lorsqu'on est doctorant, on peut avoir le statut d'étudiant entrepreneur. La difficulté du statut d'étudiant entrepreneur en parallèle d'un doctorant qui est à la rédaction de sa thèse, c'est le temps à consacrer au projet. Mais c'est compatible dans tous les cas.
Est-ce qu'il y a, une complexité particulière sur la mise en place pour pouvoir capter ce public-là, pour pouvoir leur montrer la voie?
Alors, en fait, déjà, on parle d'un nombre de doctorants qui est limité. Hein. Si on prend le nombre d'étudiants en Bretagne, c'est à peu près 100 000 étudiants. Et on parle de 2500 doctorants sur la région Bretagne, avec une grosse concentration sur le périmètre de l'Université de Rennes 2 et de l'Université de Rennes, puisque globalement, on a 1600 doctorants. Donc on s'adresse quand même à une minorité de doctorants.
Pour élargir, du coup, puisqu'on commence à parler un petit peu des freins, des blocages que l'on peut rencontrer, une question qui peut s'adresser à vous deux. En général, qu'est-ce qui bloque les étudiants pour se lancer ? Qu'est-ce que vous leur dites pour les convaincre ?
Alors, ce qui peut les bloquer, déjà la peur de se lancer, la peur de l'échec. Il y a aussi beaucoup d'idées un peu préconçues sur « j'ai pas de budget, j'ai pas de moyens financiers pour pouvoir me lancer, j'ai pas de réseau ». bon, voilà, il y a plein d'idées préconçues. Et en fait, à travers Pépite, l'idée aussi, c'est justement de casser toutes ces idées préconçues pour leur dire, il n'y a pas besoin d'avoir une super idée géniale, innovante pour se lancer. Il n'y a pas besoin d'avoir des moyens financiers énormes pour pouvoir se lancer. Voilà, donc je pense que c'est aussi ça notre rôle, de déconstruire un petit peu toutes ces idées-là pour justement les motiver à se lancer.
Jean-Charles Lavio, si vous voulez compléter.
Non, je pense que c'est bien résumé, c'est confiance en soi. Ça, c'est un des premiers freins. C'est une certitude, encore plus bien évidemment sur le public féminin, mais on y travaille par la valeur de l'exemple, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Et puis le frein de la peur de l'échec. Et ça, c'est quand même très attaché à la spécificité française. Aux États-Unis, par exemple, si vous n'avez pas planté votre boîte au moins une fois ou deux fois, il n'y aura aucune banque qui vous financera. En France, c'est l'inverse. Et donc, on est en train de casser, comme tu disais, Aïcha, je crois que c'est vraiment ça, on est en train de casser ce mythe en disant, mais l'échec est une étape à la réussite.
Très bien. Moi, personnellement, en tête, j'avais l'administratif. Je pense que ça peut être aussi un gros sujet. Et en parlant d'administratif, comment ça fonctionne concrètement pour obtenir le statut ? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'accompagnement que vous pouvez offrir sur ce volet-là ?
Alors, pour reprendre le parcours de l'étudiant qui voudrait postuler au statut, il va sur le site, soit le site du ministère, il tape statut étudiant entrepreneur, soit sur le site de Pépite Bretagne. Là, il va pouvoir compléter une première fiche d'information qui est très, très courte. Donc, pour les phobiques administratifs, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Ces premiers éléments de réponse vont nous permettre de qualifier le projet et donc de l'inviter à un comité d'engagement. Le comité d'engagement, il y en a 4 à 5 par an. Et donc, on auditionne les étudiants qui souhaitent avoir le statut. Et là encore, on va jauger non pas de la pérennité ou non du projet, on va plutôt être là pour se positionner en disant mais ok, est-ce que l'étudiant a le temps nécessaire à consacrer à son projet ? Quelle est la proportion de temps nécessaire ? Et puis quel est son niveau d'engagement ? Quel est son niveau de motivation ? Ce sont les deux critères essentiels qui nous permettent d'attribuer ou non le statut d'étudiant entrepreneur.
Vous avez devancé ma prochaine question qui était justement sur les critères d'accord du statut. Mais est-ce que vous pouvez peut-être nous repréciser si le projet doit extrêmement être défini et avancé pour qu'il soit viable ?
Non, alors en fait, dans le dispositif d'accompagnement au statut d'étudiant entrepreneur, on a développé 4 parcours qui nous permettent de pouvoir recevoir tout type de projet et tout type de maturité. En fait, on va accompagner les projets qu'on appelle à l'état gazeux, c'est-à-dire vraiment on est au début de l'idée. On a une idée, on sait pas, on a un problème, on a une solution face à ce problème, mais on ne sait pas comment développer cette solution et on ne sait même pas si finalement il y a un réel marché. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les projets en état gazeux. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, on va avoir des projets qui, des étudiants qui ont déjà testé autour de leur cercle amical ou familial le concept. Et dans ces cas-là, on est quasiment à l'aube de faire le premier chiffre d'affaires. Mais vraiment, on embrasse tout type de maturité de projet. Et donc, pour faciliter l'intégration, on a 4 parcours qui vont pouvoir les accompagner en fonction de la maturité. On a le parcours découverte, avancé, confirmé. Et puis, pour certains d'entre eux qui veulent avoir peut-être cette notion de qualification, de certification à démontrer sur leur CV, on a la possibilité d'intégrer les étudiants dans un DU, un diplôme universitaire qui s'appelle le diplôme d'étudiant entrepreneur, qui est réalisé avec le partenariat avec l'IAE LIGER de Rennes.
Vous parlez un petit peu du coup des projets, du coup des idées. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la créativité des jeunes de notre pays ? Ou du moins de notre région, voire de notre université. Est-ce qu'il y a des thématiques qui reviennent souvent, qui résonnent entre elles ?
Alors, dans tous les cas, je vais certainement pas être objectif dans ce que je vais dire, parce que, d'une part, parce que je suis pur breton, et de l'autre, parce que je suis vraiment convaincu que la Bretagne est une terre à part en termes d'entrepreneuriat. On a beaucoup, beaucoup d'exemples d'entrepreneurs qui ont réussi sur nos territoires sans aller pour autant à l'international. Donc voilà, et on en a tous en tête. Est-ce qu'ils ont des points communs ? Dans tous les cas, ce que je peux dire, c'est que le point commun, c'est le souhait de développer une activité en lien ou en respect des transitions et des enjeux écologiques. Ça, c'est un point commun à l'ensemble des projets.
Je pars complètement ailleurs, car nous vous recevons durant la semaine créative. Alors, nos auditeurs, auditrices nous écoutent, on arrive sur la fin du programme, mais peut-être vous pouvez nous raconter un peu les ateliers qui se sont joués durant cette semaine.
Alors, je laisserai Aïcha peut-être compléter, mais alors sur cette semaine créative, qui est aussi la semaine de l'entrepreneuriat à l'international, on a fait focus sur mis en place différentes animations. Déjà, quelques ateliers que vous pourrez retrouver en podcast sur le site Pépite Bretagne. Donc, on a 4 ateliers qui ont été créés et qui permettent de balayer les outils indispensables pour démarrer, parce qu'on ne sait jamais par quoi commencer lorsqu'on démarre. C'est compliqué. Donc voilà, donc là, vous allez avoir 4 webinaires qui sont vous allez pouvoir relire, enfin dans tout cas reprendre à tête reposée. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a aussi des webinaires de témoignages qui permettent aussi de se dire, mais pourquoi pas moi finalement. Et dernière chose, on a un super atelier aussi, un webinaire qui est justement orienté sur comment entreprendre à travers l'associatif.
Est-ce qu'on revient là-dessus, hein, sur comment justement le secteur associatif peut être valorisé dans ce statut-là, si vous avez des exemples concrets à nous donner avant ensuite de reboucler si Aïcha le souhaite sur le programme.
Alors, l'associatif, c'est certainement le dispositif, enfin le véhicule juridique ou le véhicule fiscal le plus simple à utiliser lorsqu'on veut entreprendre. Voilà. Donc en fait, bien souvent ou assez souvent, on a des étudiants qui démarrent par une association. Et ensuite, petit à petit, progressivement, ils vont aller vers le statut qu'on connaît bien aujourd'hui, qui est le statut de l'auto-entreprise. Donc, l'association, c'est le véhicule qui permet d'entreprendre facilement et de répondre justement aux problématiques d'engagement et de transition qu'on a évoquées tout à l'heure.
Est-ce que, si on n'a rien d'autre à rajouter sur la semaine créative, on peut peut-être parler du prix Pépite local que vous organisez, ainsi que le prix Pépite des Pépites. On a besoin d'explications. Prix Pépite.
Eh ben, c'est bien normal que vous ayez besoin d'explications, parce que c'est pas toujours simple de faire la différence. Bon, alors, le prix Pépite, c'est tous les ans, et ça reconnaît le meilleur étudiant, enfin le meilleur. Je ne sais pas si c'est le meilleur, mais dans tout cas, ça reconnaît le plus beau projet étudiant-entrepreneur de l'année. Voilà, c'est réalisé en partenariat avec BPI, mais là encore, on va reconnaître l'ensemble des types d'entrepreneuriat, y compris l'engagement, y compris l'associatif. Donc ça, c'est le prix Pépite, c'est une fois par an. Et vous avez le prix des Pépites des Pépites. Donc c'est globalement, on va aller non pas sur la promotion actuelle des étudiants entrepreneurs, mais là, on va aller balayer l'ensemble des étudiants qui ont bénéficié du statut d'étudiant entrepreneur. Donc les 1000 étudiants entrepreneurs que j'évoquais qui ont été accompagnés sur les 10 ans. Et là, eh bien, on va primer les plus beaux projets, pas forcément parce que c'est ceux qui ont généré le plus de chiffre d'affaires, mais parce qu'ils exploitent, ils sont sur les thématiques, les enjeux, ou parce qu'ils ont créé un certain nombre d'emplois. Enfin voilà, donc là encore, on va aller récompenser ces projets, mais là sur des projets qui sont créés par des alumni, donc des anciens étudiants entrepreneurs.
Un mot de la fin, l'une ou l'autre, avant qu'on passe à la suite.
Oui, alors moi, je voulais juste ajouter un point qui me paraît essentiel dans l'entrepreneuriat, c'est que au-delà de la création d'une association, d'une entreprise ou autre, ce qui est important aussi et ce qu'on explique aux étudiants, c'est qu'à partir du moment où ils ont une idée, qu'ils se mettent à démarrer, à travailler sur le sujet, ils développent plein de compétences, ce qu'on appelle les soft skills. Donc, on leur dit que même si leur projet n'aboutit pas, ils auront quand même développé plein de compétences, la capacité à travailler en équipe, la capacité à prendre du recul, à anticiper. Donc c'est vraiment des compétences fondamentales aujourd'hui dans le monde professionnel. Et donc on insiste aussi là-dessus. Et il y a d'ailleurs un référentiel qui est proposé par Pépite sur les compétences entrepreneuriales. Donc les étudiants en fait complètent et qui s'auto-évaluent en fonction de leur projet. Donc, au final, entreprendre, c'est aussi développer plein de compétences professionnelles.
Et moi, je finirai juste par une phrase. Je crois que la meilleure façon d'échouer, c'est de ne pas entreprendre et c'est de ne pas se lancer. Bon, voilà. Donc, lancez-vous. Dans tous les cas, c'est la meilleure façon d'avancer et de réussir.
Bien, merci pour tous ces éclairages, Jean-Charles Hervieux et Aïcha El Titi. Avant d'interroger les premiers concernés, les étudiants et étudiantes auto-entrepreneurs, on s'écoute Lucid Dreaming de JJFM.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Vous êtes bien sur Syllab, c'était Lucid Dreaming de JJFM. Notre reporter Christeline est allée à la rencontre de Xavier Caudal, étudiant auto-entrepreneur de Rennes, créateur d'une salle de CrossFit.
La semaine dernière, je me suis rendue à Liffré, dans la toute nouvelle et chatoyante box de CrossFit tenue par Xavier et Louis, deux jeunes vifs et enthousiasmes entrepreneurs. Ils me racontent leur histoire.
Moi, je m'entraînais dans une salle de CrossFit et on s'est promené avec Louis. Et je l'ai emmené dans ma box de CrossFit pour s'entraîner. Mais vraiment, moi, j'avais déjà cette idée d'ouvrir ma salle, mais que pour moi. Louis était vraiment pas du tout dans l'équation. Donc, je ramène Louis une fois dans la box de CrossFit. Il adhère. Il prend son abonnement 6 mois. On s'entraîne pendant 6 mois ensemble. Okay. Et là, il commence un peu à se dire, et pourquoi pas nous deux, quoi.
Ah, donc l'idée venait de toi, en fait.
Bah, de tous les deux. Moi, j'ai vu le potentiel. J'ai vu les postes qu'on pouvait occuper. Et à travers cette box-là, on s'est vu. Je pense, on s'est vu chacun dans le métier coach et dans le métier de gérant et on s'est dit tiens, pourquoi pas.
Multidiplômé dans le domaine du sport et du crossfit, Xavier, dit Xav, fan invétéré de l'anti-corail, entend parler du diplôme universitaire Pépite par une amie. Sa curiosité piquée au vif, il découvre alors ce DU étudiant entrepreneur et décide de s'inscrire. Un véritable atout pour Louis également, qui a rejoint le projet en cours de route.
J'étais pas là pour la construction de son projet, il a quand même fait tout seul, de base.
D'accord. Donc toi, t'étais là...
J'ai été intégré dans les dernières réunions, parce que ça devenait très sérieux comme projet, et donc j'ai pu bénéficier aussi de l'aide quand même d'Emmanuel de chez Pépite, pour le dire.
D'accord. Et c'était quoi, concrètement?
C'était des axes de réflexion, beaucoup. Ça c'était intéressant, nous faire travailler au bout des choses, on avait des idées, mais elle nous amenait au bout des idées, donc c'était intéressant, et des choses très concrètes, des comptables, aller voir les bons professionnels, bien s'entourer.
Dont Réinitiative.
Dont Réinitiative, voilà. C'est le réseau Pépite qui nous donne toutes les bonnes adresses, globalement.
Voilà. Ok, d'accord.
Donc si après on est sérieux, normalement ça le fait.
Trop bien.
Voilà.
Et vous encourageriez les gens à être auto-entrepreneurs?
Non, pas du tout. Non, restez dans le salariat. Non, évidemment que j'encouragerais. C'est une aventure formidable. On n'en est qu'au début, mais on ne peut pas encore juger sur quelques années. Mais c'est une très belle aventure.
Ça donc, fait combien de temps que vous êtes ouvert là?
Un mois et demi.
Ça fait un mois et demi. Et c'est une très belle aventure.
Belle aventure, certes. Mais réellement accessible à tous? Est-ce que tu es issu d'une famille d'entrepreneurs? C'est des valeurs que tu connaissais déjà?
Alors absolument pas.
Ok.
Pas du tout, non.
Tu peux nous décrire un peu ton milieu social?
Des parents aimants, déjà, tout d'abord. ma mère, elle travaillait pas, mère au foyer. D'accord. Et mon père, c'était un mécanicien. Famille lambda, j'ai deux grands frères, tout se passe
classe
bien.
Moyenne.
Ouais, classe moyenne, franchement.
Ok. D'accord. Et le CrossFit? Pourquoi le CrossFit?
J'ai toujours baigné dans le sport, j'ai toujours aimé le sport et cette discipline, justement, elle touchait un peu à... C'est une discipline qui est pluridisciplinaire, on retrouve plusieurs activités, plusieurs disciplines, on retrouve de la gym, de l'haltéro, enfin, c'est très complet. Et je me retrouvais bien dans ce domaine, donc ça me parlait bien.
Est-ce que c'est pas une discipline qui demande quand même une condition physique assez jeune?
Non, pas forcément. Ce matin même, on a eu Michel, 74 ans.
Ah.
Donc, tout est adaptable. Quelqu'un qui maîtrise très bien peut faire des tractions. Et si Michel, pour lui, c'est un peu plus dur, on va trouver une solution, du tirage à l'élastique, aux anneaux. Tout le monde y trouve son compte.
Qu'est-ce qui vous différencie d'une salle de sport classique, moi qui n'y connais rien?
Une salle traditionnelle, c'est que ici, ce sont des cours coachés de 12 personnes. Donc même si on s'y connaît, on arrive dans un milieu où je ne suis pas du tout sportif, je comprends rien, bah moi je suis là justement pour accompagner et donner des tips pour pouvoir faire progresser la personne.
Ok, donc un suivi plus individualisé et plus personnel.
Ouais, c'est ça, exactement.
Vous l'aurez compris, le DU Pépite porte bien son nom et ses valeurs de suivi personnalisé. Alors si vous vous sentez l'âme d'un entrepreneur, foncez à Rennes 2. Vous trouverez plus d'infos sur le statut national étudiant-entrepreneur qui permet à tout étudiant porteur d'un projet entrepreneurial de bénéficier d'un accompagnement auprès d'un tuteur enseignant de l'université. Un grand merci à Louis et à Xavier pour leur accueil, leur témoignage, leur bonne humeur. Foncez les rencontrer à l'IFRE. Eux aussi proposent ce suivi personnalisé tout en s'amusant. On leur souhaite une longue vie et longue vie à CrossFit Agora.
Merci Christeline pour ce reportage. Xavier Caudal est justement en face de moi, accompagné de Mathilde Hérault, elle aussi étudiante à Rennes 2 et auto-entrepreneuse. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Alors Mathilde, vous, votre activité est totalement différente de celle de Xavier. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre projet ?
Oui, totalement. Alors moi, c'est du coup une agence de com et d'événementiel pour les entreprises et à destination des territoires ruraux principalement. Donc l'idée, en fait, c'est d'aller faire du porte-à-porte, de la prospection. Les entreprises, les organisations, les organismes publics ou les associations et leur proposer mes services. Donc dans la communication, ça peut être des réseaux sociaux, de la newsletter. Par exemple, en ce moment, j'ai un projet comme ça sur la promotion de calendrier de l'Avent. Guillaume Frémoigerie, si tu passes par là, bonjour. Voilà, donc ça peut être ça. Sinon, il y a aussi des ateliers en boutique pour de l'événementiel. Ça peut vraiment être très, très, très varié. Donc voilà, ça peut être ça. Sinon, ça peut être des séminaires, ça peut être des marchés de producteurs. Ça peut vraiment être très varié en fonction des besoins. Avec Pépite, par exemple, en début d'année, je les ai accompagnés aussi pour le Demo Day. Donc voilà, une belle expérience également. Donc voilà, ça peut vraiment être très varié en fonction des besoins des entreprises.
Le Demo Day, qu'est-ce que c'est ?
C'est un endroit où en fait les étudiants entrepreneurs sont amenés à promouvoir leur entreprise grâce à un stand. Donc voilà, c'est sur une petite soirée. Et voilà, on est tous là, il y a pas mal de personnes qui sont conviées. Je regarde Jean-Charles en même temps pour ne pas dire de bêtises. Voilà, c'est une petite soirée où pas mal de personnes sont conviées et nous on est amenés à promouvoir notre entreprise.
Donc on a vu que vos projets tous les deux étaient en plein essor, mais pour revenir du coup sur la genèse de vos projets respectifs, j'ai retenu le terme d'idéation.
Oui.
Comment est-ce que ça s'est passé à votre niveau ?
Alors, l'une vas-y. Comme l'autre.
L'un comme l'autre.
Comment ça, j'ai pas bien compris
La genèse de votre projet, comment l'idée est venue ?
Comment l'idée est venue ?
Ouais.
C'était un matin, un jour de printemps.
C'est déjà très sexy.
Ouais. Non, comment l'idée s'est créée, du coup c'est un projet qui a été fait à deux avec un associé. Je suis pas tout seul justement dans ce projet, dans cette ouverture de salle de CrossFit. Je faisais déjà beaucoup de sport, j'étais dans une salle de CrossFit et j'ai amené un ami à moi dans ce bateau, lui faire découvrir un peu cette discipline. Et il a accroché et on s'est dit pourquoi pas nous. Pourquoi pas nous ? Et à la suite de ça, j'ai décidé justement de me renseigner s'il y avait justement des structures qui pouvaient nous accompagner. Ça a été le cas. J'ai par la suite décidé de commencer ce DU, DU Pépite, et c'est comme ça, de fil en aiguille, ça s'est fait. J'ai décidé justement d'ouvrir ce projet avec mon ami qui m'avait suivi.
Donc du coup, vous avez...
Et vous, Mathilde ?
Alors pour moi, du coup, c'était donc l'idéation s'est passée il y a quelques années, c'était en 2021 plutôt. Donc là où vraiment j'avais l'idée du projet, je savais pas par où commencer, je savais pas par quoi commencer, comment. Donc je me suis intéressée à la BPI France, aux Pépites, sans trop me rapprocher de tout ça. Je me suis abonnée au compte, je suis allée à quelques événements. Et en janvier 2024, là je me suis vraiment intéressée en rentrant dans le réseau. Et voilà comment c'est à peu près passé l'idéation du projet.
Donc au début, vous avez une idée, une espèce d'objectif. Mais pour ce qui est du coup de la réalisation concrète du projet, c'est vraiment là qu'intervient du coup l'organisme. Et du coup, vous avez au début peut-être des difficultés, des appréhensions, pas savoir vraiment comment ça fonctionne. Et c'est là qu'intervient du coup le Pépite, quoi.
Ouais, carrément. Il y a énormément parfois des zones de flottement, des zones de flou, par où je dois commencer, qui je dois aller voir. L'avantage du coup justement avec l'organisme, c'est qu'on avait des cours tous les mardis. Tous les mardis on avait des cours et on avait justement des intervenants qui étaient calés sur certaines disciplines, style marketing, communication, etc. Et tous les mardis, tu prenais des tips, des experts qui te disaient comment faire, ils te recommandaient, ils te conseillaient, ils pouvaient te partager des relations, des contacts. Donc c'est un puits de savoir, puits de connaissances qu'on te donne comme ça gratuitement et c'est cool quoi.
Est-ce que vous avez eu la sensation que c'était quelque chose de difficile peut-être avant ou finalement vous aviez un peu des bâtons dans les roues avant de d'arriver chez Pépite ou alors c'était pas quelque chose de est-ce qu'il y avait un côté un peu montagne escalade tout ça
Difficile, non. Je pense qu'il y avait quelques appréhensions. C'est normal aussi d'en avoir. Après, voilà, honnêtement, pour ma part, du moins, Pépite a su vraiment me réconforter et justement dégrossir cette grosse montagne de l'entrepreneuriat, de comment commencer, de qui se rapprocher. Effectivement, le DU, le diplôme d'étudiant entrepreneur, nous permet aussi de rencontrer des experts et aussi de rencontrer des pairs, tout simplement, même si on n'est pas tous dans le même domaine, même si on n'est pas tous... on n'a pas tous les mêmes bases, finalement, on est vachement dans les échanges. Et ça réconforte pas mal, je trouve.
Ouais.
Je sais pas si t'as des choses à rajouter.
T'as tout dit, hein, t'as tout résumé, là.
Donc, du coup, vous aviez des cours, vous me disiez, vous avez des rencontres avec des personnes qui étaient constructives pour votre projet. Est-ce qu'il y avait d'autres outils qui étaient à votre disposition?
Ouais.
Ouais, on avait également des mentors qui nous suivaient, qui pouvaient nous donner des tips du style...
Comment s'organiser, comment gérer ton planning.
Yes.
Ça dépend. Après, il y a aussi les mentors professionnels. Donc là, ça va être une personne, un acteur de territoire, par exemple. Sinon, on a aussi les personnes de Pépite qui sont là pour nous accompagner et pour nous donner quelques directives et pour suivre notre projet. Et après, il y a aussi, par exemple, la toolbox donc il y a aussi le Discord, il y a la toolbox qui est sur Notion. Il y a vraiment plein d'éléments qui nous permettent de consolider nos savoirs et pouvoir échanger facilement. Il y a aussi le petit déj du lundi, je ne sais pas si tu y avais participé. Voilà, il y a pas mal d'événements justement aussi pour se rencontrer et pour apprendre entre nous, quoi.
Est-ce qu'il y a du coup aussi des notions collective avec du coup les membres de les personnes qui rejoignent le dispositif? Est-ce que vous vous entraidez entre vous? Est-ce qu'il y a une notion de coworking? Est-ce qu'il y a des collectifs?
Ouais, carrément. Moi, j'avais une top promo. On échange toujours sur le groupe WhatsApp. On a un groupe WhatsApp ensemble. On échange. Il y en a même encore, ils s'attrapent, ils se captent encore. Ils se rejoignent entre eux pour échanger, pour travailler. J'avais fait justement des devis de design avec un des gars avec qui j'avais fait la promo Pépite. On s'entraide, même pour boucler cette belle boucle. Une partie de ma promo était venue justement à mes portes ouvertes de ma salle de CrossFit, donc c'était sympa, ça, c'était cool.
Est-ce qu'il y a eu des différences entre ce que vous imaginiez de cette vie-là d'étudiant entrepreneur, ou ça s'est passé un petit peu comme vous l'attendiez?
Alors, pour ma part, je m'attendais aussi à pas mal de rebondissements, de dentis, on peut dire ça comme ça, de comment est-ce qu'on s'organise, comment on travaille tous les jours, sachant qu'on n'a personne autour de nous, entre guillemets. Donc, je m'attendais à ça. Après, en fait, c'est aussi beaucoup de feeling de, si on ne sait pas quoi faire aujourd'hui, on va aller prospecter, par exemple, on va aller faire des recherches sur ce qu'on doit développer. Là, par exemple, je viens de développer... mon logiciel de CRM, ERP avec Odoo, concrètement, ça, c'est des choses auxquelles on pense, mais on ne sait pas par où partir, comment partir. Et finalement, c'est aussi un petit échange le midi avec les professionnels de Pépite, et c'est ça qui fait débloquer certaines situations.
Ouais. Alors justement, Mathilde, vous parliez de comment bien gérer son planning, son emploi du temps. Alors, comment on fait concrètement pour gérer les études, le travail, comment ça se passe?
Alors, je ne sais pas s'il y a de réponse miracle à ça. L'année dernière, du coup, j'étais en master commune à Rennes 2. À ce moment-là, du coup, j'arrivais à peu près à gérer mon temps dans le sens où l'entreprise, en plus, n'était pas encore créée. Enfin, à mi-temps, on va dire ça. Donc, je me faisais beaucoup de rétro-planning de court, moyen, long terme. Après, j'essayais de m'organiser aussi avec Notion, par exemple, ça m'a pas mal aidé. De comment on voit le planning à la semaine, comment on voit nos journées aussi. Et donc voilà, après je pense pas avoir de réponse miracle à ça. Je suis très désordonnée dans ma vie personnelle, donc j'essaie de m'organiser au mieux, mais c'est vrai que des fois c'est un peu complexe de voir ça. Mais bon, ça se fait bien quand même.
Xavier ?
Je m'organisais énormément sur Notion. C'est un outil pour pouvoir organiser ses journées de travail. Une application que j'ai appris grâce à Pépite, justement, il y avait une experte qui était passée qui nous avait parlé de Notion pendant une heure, et j'ai trouvé ça formidable. Ça m'a énormément aidé dans ma gestion de travail, gestion de temps, dans ma logistique.
Ça fonctionne comment exactement, ce logiciel?
Comment ça fonctionne, un logiciel que tu peux utiliser sur ordinateur comme sur, sur portable, sur tablette.
Un système de rappel avec des notifs.
Ça, tout est lié. Okay. Super intuitif. Mm-hmm. Super intuitif, tu peux mettre une note et ton associé, du coup, il reçoit la note. Ça marche par un cloud, en fait. Mm. Ça marche par un cloud et du coup, tu peux directement transmettre des infos sans les perdre, capitaliser beaucoup de données, de data, donc... Non, c'est chouette.
Mais c'est totalement personnalisable. Donc finalement, on peut aussi le mettre un peu à nos couleurs, entre guillemets, ou à notre patte, à notre charte graphique, si on en a une. Bonjour, la communication, on va dire ça.
Ouais.
Donc ouais, c'est vraiment pas mal. Et t'as aussi des tableaux, il y a des rétro-planning qu'on peut mettre, encore une fois. Donc non, c'est vraiment un bon outil, effectivement.
Du coup, il y a cette notion-là de gestion du temps. Ouais. Est-ce que, j'imagine sans doute qu'il y a une notion aussi de gestion du budget? En tant qu'étudiant, ce n'est pas forcément facile. Et d'ailleurs, à ce titre, est-ce que vous avez déjà pu prétendre à des aides et comment ça s'est passé pour vous de ce point de vue-là?
Moi, je touchais la bourse et en parallèle, je travaille aussi. J'étais surveillant dans un collège. Mm-hmm. Donc, ça me permettait de mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir survivre. Et là, en ce moment je touche le chômage. On s'est donné un an de chômage pour le projet avec mon associé. On touche tous les deux le chômage, comme ça on se consacre à 200% sur le projet et on espère recevoir de l'argent très prochainement dans un an, post un an d'ouverture.
Mathilde ?
Alors pour ma part, j'ai décidé de ne pas travailler à côté du projet professionnel, donc de création d'entreprise, pour me consacrer à temps plein pour la création justement et pour l'évolution de cette dernière, ce qui pour l'instant porte ses fruits, donc c'est plutôt chouette. Après, j'ai bénéficié, j'ai le droit aux bourses, j'ai aussi l'ACRE. Mm-hmm. Donc là, c'est des... Je vais pas rentrer dans les détails, mais ouais, c'est une petite aide quand même qui permet de...
Ça permet d'avoir une déduction fiscale première année, c'est ça?
C'est tout à fait ça. Donc c'est toujours intéressant quand on est en micro-entreprise et en plus qu'on fait des services, c'est intéressant, effectivement.
Pour terminer, si vous aviez des conseils à donner à d'autres étudiants qui voudraient se lancer dans l'auto-entrepreneuriat, quels seraient-ils?
Alors, je pense que c'est d'y aller, c'est de se renseigner, bien sûr, si on a vraiment la conviction de « Ok, notre projet fonctionne, mais j'ai des questions sur le terrain, sur comment ça fonctionne, sur... toutes les démarches administratives qu'on doit faire, qui on doit contacter, c'est d'aller à la rencontre directement en fait, des personnes ressources, que ce soit Pépite ou toutes les autres associations ou organismes qui existent. Finalement, en fait, ça permet aussi déjà de franchir un premier pas, un premier cap pour avancer là-dedans. Et si vous êtes bien entouré, encore plus. Enfin, moi, je sais que j'ai eu la chance d'être entourée par mes proches, j'ai eu beaucoup de soutien. Ce qui m'a permis vraiment aussi de passer le cap et de me dire, ok, là tu te lances à 100% et on y va et on y croit. Allez-y quoi. Enfin, ouais. Je pense vraiment qu'il faut y aller si on y croit.
Je pense que ça peut vraiment faire la différence, le fait d'être bien entouré. Moi avec mon associé et moi, personne nous a arrêté quoi. Personne nous a dit, je pense pas que c'est une bonne idée. C'est un réel avantage. Je pense que ça peut vraiment être handicapant si y a quelqu'un de ta famille qui te dit, je suis pas sûr, je suis pas sûr de ce que tu fais. Donc non, j'ai eu cette chance. J'ai clairement eu cette chance que tout le monde était derrière moi, tout le monde y a cru. Donc,
Vraiment, l'important, c'est l'accompagnement.
Ouais.
Ouais, ça peut aider.
Après, tu vois, moi, j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit « Oh, attention, ce que tu vas faire, c'est compliqué. » Et en fait, finalement, ces personnes-là, c'est aussi des personnes qui vont nous booster. En fait, dans les moments où on va vraiment douter, on va repenser à ces mots, à ces termes un peu durs parfois. On va dire « Ok ». En fait, on va se donner les moyens pour réussir, pour franchir quelque chose, pour le faire et pour montrer qu'on en est capable. Donc, même si ça peut exister d'avoir des personnes qui sont totalement réticentes autour de nous, finalement, prenez ça comme une force et voilà, essayez. De toute façon, vous ne perdez rien si à côté vous arrivez à avoir un travail, vos études, sachant que ça va de l'idéation au projet. Donc finalement, ça peut mettre un peu de temps pour se mettre en place.
Ça peut être des jaloux aussi, hein.
En plus,
oui,
totalement.
Ouais. Est-ce que vous partagez cette philosophie de Jean-Charles Hervieux, de il faut se casser la jambe au moins une fois pour pouvoir réussir. Est-ce que le risque d'échec, vous l'avez en tête et vous vous dites, bah, c'est pas grave, ça peut m'arriver, mais au moins j'aurai appris et je recommencerai plus tard? Ou est-ce que vous dites, vraiment, si j'échoue, bah, je changerai peut-être mon fusil d'épaule, je recommencerai pas forcément? Quel est votre point de vue là-dessus?
Bah, ça dépend comment est l'échec, en fait. Tout est question de grandeur de l'échec. Mais je suis partisan aussi de l'idée de, ouais, on apprend de ses erreurs.
Ouais.
Et effectivement, on apprend beaucoup d'expérience dans l'entrepreneuriat. C'est l'expérience de l'entrepreneur, en fait. Tu sais comment, s'il faut la jouer différemment. Tu te crées un réseau, donc tu sais qu'il faut voir, qu'il ne faut pas voir. Il faut bien s'entourer, ça revient encore avec ça. Ton projet peut clairement changer si tu es accompagné de la bonne personne, si tu as vu la bonne personne. Faut être au bon endroit au bon moment aussi, mais je pense que ça se provoque aussi, cette chance.
Est-ce qu'il y a eu des déconvenues lors de votre parcours, ou ça s'est passé de manière plutôt fluide?
Ouais. Pour mon cas, plutôt fluide, surtout dans les deux. On a eu 2 mois de travaux, en fait. 1 mois et demi de travaux. Donc il y a des choses où on n'a pas pensé pour installer, je sais pas moi, le timer tout en haut. Fallait en fait louer une grue. Enfin, il y a des choses comme ça, on pense pas à ça, quoi. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était plutôt fluide. Mais on s'était bien posé, on avait bien réfléchi. On n'a pas fait ça à la va-vite.
La réflexion est très importante.
Ouais. Tu anticipes. Quand il y a plusieurs milliers d'euros en jeu, généralement on anticipe le coup et on fait attention, quoi.
Effectivement.
Mais plutôt fluide. Non, franchement, ça s'est bien passé. C'est cool.
Et Mathilde?
Honnêtement, il y a quelques problèmes, il y a quelques difficultés qu'on va rencontrer. Enfin, personnellement, j'en ai déjà rencontré, même si ça fait que quelques mois que l'entreprise est créée, enfin que immatriculée même. Après, effectivement, c'est comme ça qu'on apprend. Enfin, concrètement, lorsqu'on tombe, lorsqu'on chute, comme à vélo quand on est enfant, eh bien, on apprend à remonter sur le vélo et à pédaler. Et concrètement, là, c'est pareil avec l'entrepreneuriat, où bah, des fois, ok, on est face au mur, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment réagir. On prend le recul nécessaire, on va contacter les bonnes personnes et derrière, on arrive à faire ce pas de côté qui nous permet d'avancer. Et pour ma part, je pense que si, admettons, demain, je dois arrêter l'entreprise pour X ou Y raison, j'espère, je dis bien j'espère, que je saurai rebondir et retrouver une solution pour, si ce n'est pas dans le domaine de l'événementiel, là, comme ce que je ne souhaite vraiment pas, parce que je suis vraiment passionnée par ces domaines-là, bah, ça sera dans autre chose et au pire des cas, bah, j'irai en tant que salarié et ça sera ok et ça se fera dans tous les cas. Mais ouais, non, pour moi, de toute façon, bah, les échecs sont bons parce que dans les échecs, on apprend toujours finalement, même si bah, c'est dur sur le coup, c'est un petit moment à passer, quoi.
Et on parlait de budget tout à l'heure, mais il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est le possible endettement financier pour la création d'une entreprise. Est-ce que vous avez l'impression, si ça a été votre cas, qu'au moment où vous êtes allé voir la banque ou les gens qui pourraient vous prêter de l'argent, le fait d'être jeune, ça a été un frein, un handicap, qu'on vous a regardé un peu en mode « ouais, bon, bof ».
Pour mon cas, on est allé voir 2 banques. La première banque, on a eu un refus. La deuxième, c'est passé comme une lettre à la poste. On avait plutôt un bon dossier. On a réussi à bien charmer les banquiers en face de nous. Donc, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé.
Pour ma part, je n'ai pas encore eu la chance ou le problème de rencontrer les banquiers parce que bah, concrètement, pour monter une agence de com et d'événementiel, il y a très peu de besoins bancaires, on va dire ça. Aujourd'hui, j'ai assez. J'arrive à vivre ou survivre, comme tu disais tout à l'heure, avec mon argent de côté. J'ai quelques bourses, j'ai tout ça. Après, j'ai aussi maintenant, merci à eux, des clients. Donc ça, c'est plutôt chouette aussi, parce que finalement, ça permet aussi de reprendre confiance. Et pour revenir à bah, comment on gère l'entreprise, pour une agence de com et d'événementiel, il y a quoi? Il y a le nom de domaine, il y a le Google Workspace.
Mais c'est moindre qu'une salle de CrossFit qui demande un lieu.
C'est totalement ça. Ouais. Il y a moins de besoins. Après, c'est ça, faut, je pense, évaluer. Enfin, de toute façon, c'est ce qu'on nous demande, c'est d'évaluer son budget, d'en créer un. Et par exemple, je peux parler de ça rapidement, le coffre-fort de la BPI France, je crois que c'est ça, est très bien fait pour nous aider. Concrètement, c'est ce que j'avais fait en 2021. Je crois que c'était en 2021, j'avais commencé par ça, en me disant, ok, bah, tu notes mes idées. Et comme ça, déjà, au moins, c'est noté, c'est là, c'est sur le papier. Et même si le budget est très loin, bah, finalement, c'est quand même présent. Et ça aide à avoir une vision aussi sur comment on s'organise dans les prochaines années ou prochains mois.
Et en parlant des prochaines années, des prochains mois, avant de se quitter, quelques mots sur le futur de vos projets à l'une comme à l'autre. Qu'est-ce que vous prévoyez?
Où est-ce qu'on se voit? On n'est pas contre pour ouvrir plusieurs salles, plusieurs boxes de CrossFit. Bon, déjà, on se focus pour se pérenniser celle-ci. On va se focus, ouais, comme je viens de le dire, sur une bonne ouverture, sur un bon démarrage, et à l'avenir, pourquoi pas ouvrir plusieurs box, multiplier nos actifs. Ça peut très bien aussi être, j'en sais rien moi, des restaurants, businessman quoi. La casquette du businessman, hop, je la garde sur la tête et voilà.
Pour ma part, ça c'est pareil, non. L'agence de com et d'événementiel, j'espère qu'elle pourra, à moyen, long terme, évoluer et prospérer de sorte à ce que je puisse ouvrir un lieu de réception, potentiellement un domaine dans l'idéal, dans les milieux ruraux, bien évidemment. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de créer un lieu de rencontre pour que tous les clients puissent, enfin, ou des clients puissent venir, que ça soit dans un espace de coworking, ça serait vraiment chouette. Ou voilà, faire un petit lieu de cohésion, on va dire ça.
Ok, et bah bonne chance à vous deux, on touche du bois.
Merci.
Merci Mathilde Hérault et Xavier Caudal d'avoir répondu à nos questions. On arrive à la fin de cette émission spéciale. Merci Pierre-Louis pour la technique, merci à Cesse et Tristan pour être venus poser des super questions.
C'était un plaisir.
Merci à vous Jean-Charles Gervio et Aïcha El Titi. Et puis on vous souhaite une bonne soirée sur Scilab.